With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vos oreilles amis sous sa forme compacte mais terriblement efficace, c'est l'Extra Ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film ou une série, un film en l'occurrence puisqu'on va prendre une poignée de minutes pour causer de Spider-Man Homecoming, nouvelle tentative conjointe de Marvel et de Sony pour relancer la franchise en déshérence depuis que Sam Raimi a passé la main en 2007. Je vous invite d'ailleurs à écouter également l'émission spéciale que nous consacrons aux réalisateurs que nous chérissons tant. Mais d'abord donc place à cette Homecoming qu'on dissèque avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut.
Et Cénociné Extra Ball spécial Spider-Man Homecoming, je vais réussir à le dire, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ah mais c'est pas facile à dire. Après une paire de films assez désastreux en 2012 et 2014, signé Mark Webb, Marvel a donc repris la main sur Spider-Man et nous a présenté dans Civil War son nouveau Peter Parker, incarné désormais par Tom Holland, et lui consacre maintenant un film tout entier qui nous raconte une nouvelle fois les débuts du jeune Peter sous le costume du tisseur. Alors que vaut-il ce Homecoming, mon cher Julien?
C'est un blockbuster fonctionnel, mais qui se complète dans sa médiocrité.
Pas mal.
Alors, fonctionnel, pourquoi ? C'est-à-dire que quand je vois un truc comme ça, après les films de Mark Webb, après les Amazing Spider-Man et après Wonder Woman, enfin tous les films DC, bon, pour comparer avec les autres films de super-héros qu'on a pu voir, c'est à peu près écrit, hein, ça se tient à peu près techniquement. C'est déjà pas mal, mais dans les canons Marvel, hein, s'entend, hein, dans le cadre des films Marvel, c'est-à-dire que il y a un stade où c'est des films qui peuvent être détestables, mais qui sont, moi, je trouve pas honteux, pas en termes de facture, on va dire.
Oui.
À cela, il faut quand même mettre quelques nuances, c'est-à-dire que oui, c'est fonctionnel, mais déjà, il faut savoir que c'est le design à la Marvel, ça ne change pas d'un iota. Donc ça, c'est assez, pour moi en tout cas, c'est assez irritant. J'en ai juste plein d'eau de voir tout le temps les mêmes choses, tout le temps. Alors je sais que ça doit faire partie du même univers, etc. Mais c'est toujours la même soupe, quoi. Ça, c'est vraiment fatigant. Les scènes d'action sont illisibles, ce qui est quand même
un
gros problème. Alors, je pense que c'est vraiment dû à la compétence du réal, hein, là, en l'occurrence. C'est même assez étonnant de se dire que le mec ne parvient pas à t'emballer des scènes d'action correctes avec tous les outils qu'ils ont, parce qu'on sait que les films Marvel sont des films extrêmement travaillés en amont, avec plein d'animatiques, c'est-à-dire des storyboards en 3D grossières. C'est fou de voir qu'au final, tu te retrouves avec un truc où tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là exactement, c'est quoi le beans? Et moi, j'ai aussi, je trouve qu'il y a, alors c'est hallucinant ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a un petit retard par rapport à Amazing Spider-Man 2, qui était un film épouvantable, hein, complètement à chier, mais où je trouve que techniquement, au niveau des FX, il y avait des trucs vraiment étonnants, notamment un travail sur le costume de Spidey qui était un petit peu lâche, alors du coup, qui volait, qui vibrait un petit peu quand il était au vent, ça rajoutait un surplus de réalisme en fait au personnage. Là, les doubleurs numériques de ce Spider-Man Homecoming, elles arrivent au niveau de Spider-Man 3 qui date quand même un petit peu, donc c'est quand même c'est compliqué, quoi, aujourd'hui, sur un film qui a coûté autant de thunes. Bon, ça, voilà. Mais tout ça, c'est le côté, en fait, finalement, relativement positif, en fait, du film. On va passer maintenant aux choses qui fâchent. Parce que tu disais que c'est à nouveau une histoire de recommencement pour le personnage. Sauf que ils ont un petit peu retenu les leçons des catastrophiques, Amazing Spider-Man, qui est de refaire tout de A à Z. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ils ont carrément viré un élément constituant de Spider-Man qui me semble extrêmement important, qui est l'oncle Ben. C'est-à-dire qu'il y est fait absolument jamais allusion. On ne sait pas du tout qui est ce personnage, même s'il a existé. Ça se trouve, Tante May n'a jamais eu d'oncle Ben à ses côtés. Et pour le personnage de Peter Parker, c'est dramatique. Parce que l'oncle Ben, quand on connaît un tout petit peu la mythologie de Spider-Man, je pense que tout le monde la connaît maintenant, c'est l'élément constituant qui va le conduire sur le chemin de l'héroïsme, qui va initier tout ce chemin de rédemption. Et moi, je trouve que la culpabilité d'un héros, c'est un moteur fabuleux pour créer un personnage attachant, humain, et en même temps qui va être amené à se surpasser.
Et surtout, c'est l'oncle Ben qui dit... la phrase
voilà.
Alors là, avec un grand pouvoir vient
elle n'y est pas du tout du coup. Mais alors du coup comment Peter Parker devient Spider-Man, qu'est-ce qui fait que Peter Parker devient héros? Pas grand chose. C'est-à-dire qu'en gros on se retrouve avec un ado un peu mal dégrossi, un tout petit peu mal dans sa peau mais pas trop quand même, qui va devoir faire ses preuves vis-à-vis de son papa étant Tony Stark. En gros t'as pendant disons les trois quarts du film, Spider-Man il fait des conneries parce qu'il essaye de jouer aux super-héros comme les Avengers. Et papa Tony Stark qui vient et qui répare les conneries de Spider-Man. Donc ça, c'est assez blessant et avilissant pour un beau personnage comme Spider-Man de le voir réduit au faire-valoir finalement de Iron Man. Et dans le dernier quart d'heure, évidemment, il va être amené à devenir un peu plus héroïque et tout, mais finalement avec des motivations qui sont très très faibles, très légères. Et du coup, on se retrouve avec un truc totalement insignifiant où il y a deux, trois gags qui peuvent fonctionner, mais finalement, ce sont les gags qui sont le principal moteur du film, où il y a pas vraiment d'humanité, il n'y a pas vraiment de tragédie, il y a une love story qui va être... alors, je suis désolé, là, je vais sortir un spoil, hein, mais qui va être liée au grand méchant du film, qui est joué par Michael Keaton, qui est pas mal, d'ailleurs, mais qui est sans incidence. Alors, il y a un truc... il y a une chose qui est posée à un moment qui aurait pu rendre le film, à mes yeux, assez intéressante, qui est une discussion... alors là, pour le coup, je pense que je spoil rien parce qu'elle est dans la bande-annonce, qui est une discussion entre le vautour, donc le grand méchant, et Spidey, et Peter Parker, où le vautour, en gros, l'idée du vautour, c'est qu'il récupère tous les restes des combats dantesques, enfin, qui se veulent dantesques des Avengers, pour se créer une espèce de d'armada de pointe au service du crime, mais des crimes assez crapuleux, hein, en fait. Et en gros, ce personnage tente de rallier Peter Parker à sa cause, parce que Peter Parker a lui-même, évidemment, comme tout ado, des problèmes avec son papa, donc il tente de le rallier à sa cause en lui disant « Mais tu sais, le combat des Avengers, c'est pas notre combat. En gros, les Avengers, c'est les 1%, et nous, on est les petits gens, on doit se contenter de peu. Nous, on est juste la chair à canon. On est là pour souffrir vis-à-vis de ces combats qui nous dépassent. Passe, rallie-toi à ma cause, reviens du côté des petites gens, des humains, toi t'es le héros des petites gens et des humains, et ensemble on peut réussir à créer quelque chose. » En gros, on se retrouve vis-à-vis d'un militant nihiliste assez malsain, qui serait donc le vautour, et Peter Parker qui pourrait s'ériger en tant que défenseur des petites gens. Je trouve que ça aurait pu être intéressant, sauf que aujourd'hui, dans les blockbusters, et encore plus dans l'univers croisé d'Iron Man, t'as pas de latitude au niveau de la narration, donc ils ne peuvent pas du tout assumer cette note d'intention qui est posée à un endroit. Et sans rien vouloir spoiler, évidemment, Peter Parker va pas se rallier à la cause du auteur, et même ça va pas vraiment en fait l'ébranler dans ses propres convictions. Et du coup, je trouve que le film, si on va vraiment, si on creuse vraiment dans son idéologie, et je pense que c'est pas volontaire hein, de la part de Marvel, mais si on creuse dans l'idéologie, c'est assez malsain. Mmh. C'est-à-dire qu'on se retrouve vis-à-vis d'un, comme si c'était un ouvrier qui se ralliait du côté des 1%, qui devenait macroniste, quoi. et moi, ça m'a foutu un peu mal. C'est-à-dire que oui, Peter Parker, et Sam Raimi nous l'a brillamment prouvé, c'est un mec qui en chie, il n'a pas d'argent, il n'a pas de pognon. Moi, ça me fait du bien, un personnage comme Spider-Man, à l'heure où la plupart des super-héros qu'on nous présente, c'est des nouveaux riches, c'est des mecs qui ont réussi, c'est des mecs qui ont le pouvoir, ou alors c'est des demi-dieux, bref, c'est des puissants. Moi, j'ai envie de voir un petit genre se surpasser et me montrer sa valeur humaine. Eh ben non. Là, encore une fois, on se retrouve avec une petite jambe, mais qui finalement va te dire, finalement, les patrons, c'est pas si mal. Petite nuance hein, à la fin, hein, mais il n'empêche que tu as un arrière-goût pas très plaisant. Moi, finalement, ce Homecoming prouve d'une part que la mécanique Marvel est fonctionnelle, encore une fois. C'est une mécanique qui fonctionne. Et d'ailleurs, elle perdure. Et je pense qu'elle ne durerait pas comme ça auprès du public si elle n'était pas fonctionnelle. Mais d'un autre côté, ça prouve surtout, encore une fois, que tu ne refais pas un Spider-Man impunément après ce que Sam Raimi a posé. C'est impossible. Même après la réussite un tout petit peu plus tempérée de Spider-Man 3, qui est un film que j'adore hein, personnellement, mais c'est vrai que c'est un film qui a quelques défauts, tu ne repasses pas derrière comme ça. C'est des films qui sont rentrés tellement, qui ont été ancrés tellement fort dans l'inconscient collectif, qui ont tellement marqué au fer rouge la culture pop que tu ne peux pas recréer un personnage comme Spidey aujourd'hui. C'est extrêmement difficile et je souhaite bien du courage à Marvel pour la suite.
Et Spider-Man Homecoming, c'est au cinéma en ce moment, mais si vous avez le courage, hein, parce que sinon vous pouvez aussi revoir les Spider-Man de Sam Raimi, c'est pas plus mal. Merci Julien, merci à Jules à la technique, merci à l'Antenne Paris pour l'accueil, nociné.com, Binge.audio audio pour retrouver toutes nos anciennes émissions. On vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizi, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.